Merci Seigneur pour ce que tu as mis à cœur de Jean, au cœur de Jean de partager ce matin Seigneur. Merci pour la sagesse que tu as déposée dans son cœur et que tu fais sortir de ses lèvres Seigneur. Merci pour ce que tu as choisi de lui accorder comme parole de révélation de qui tu es Seigneur ce matin au travers de la parole. Merci pour ce service au milieu d'entre nous Seigneur. On veut recevoir cette semence comme quelque chose qui va porter du fruit dans nos cœurs Seigneur. Et on prie que tu bénisses abondamment Seigneur Jean et Anne-Marie aussi. Amen.
Amen. Amen. Je propose de lire ensemble la parabole du mariage et des 10 demoiselles d'honneur, forcément mieux connue sous le nom parabole des 10 vierges. Nous verrons assez vite que ce n'est pas du tout étranger à ce que nous venons de vivre. Élever, glorifier, magnifier le Seigneur Jésus. Et aussi, je suis reconnaissant pour l'insistance sur « Tu es enfant de Dieu », parce que pour ceux qui la connaissent déjà, la parabole, pour certains, ça finit pas bien. Et il est très important que ceux qui sont enfants de Dieu ne se précipite pas à endosser des paroles que Dieu adresse à ceux qu'il rejette, mais qu'il n'adresse pas aux siens. Cependant, cette parabole, Jésus l'a dite, elle est écrite, et quand nous lisons les évangiles, en l'occurrence Matthieu, vous la lisez, et elle est difficile. Alors, je n'ai pas choisi ce texte juste pour le plaisir de me rendre utile au sujet de quelque chose de difficile. Je pense que le Seigneur me conduit comme ça. Mais ça pourra rendre service. Donc, je propose que nous la lisions. Ensuite, quelques minutes de un peu dire le contexte, quelques minutes d'introduction qui sont nécessaires, puis que nous la relisions, elle n'est pas longue, et ensuite nous verrons le message de la parabole qui est simple, pratique, exigeant. Alors, donc Matthieu 25, premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre ! Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, Les autres vierges arrivèrent aussi et se dirent. Pardon, et dirent. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ce verset 13, ce n'est plus la parabole elle-même, mais c'est la conclusion de Jésus, conclusion qui dit le message central de la parabole. Tenez-vous prêts. Alors, donc Jésus compare l'avènement du royaume à la venue d'un marié, venu hautement considéré ou pas. Alors cette parabole est difficile, entre autres parce que depuis des siècles et des siècles, elle donne lieu à un débat inextinguible sur que représentent les vierges folles. La question vaut, et je ne me déroberai pas, je répondrai du moins dans, pour autant que je peux. Mais ce n'est pas la question centrale. Comme toute parabole, la question centrale c'est quelle est l'idée forte de l'histoire racontée? Quel est le message central? C'est ça la question. Et Jésus le dit clairement à la fin. Le message central, c'est « tenez-vous prêts ». Alors, quelques mots sur le contexte. Il est heureux que le peuple de Dieu reprenne à cœur de tenir compte du contexte de ce qu'il lit, pour ne pas prendre quelques bribes, les transformer en slogans, voilà, et aller au-delà de ce qui est écrit. Mais le souci du contexte n'est pas uniquement, en tout cas pas premièrement, juste un souci de corriger la connaissance. Le souci du contexte, c'est de l'honnêteté envers l'auteur, en l'occurrence envers l'Esprit-Saint, qui est l'auteur des Écritures, à travers tel ou tel. D'accord ? Alors, Matthieu 25, ça suit Matthieu 24. Jusque-là, ça va. Et dans Matthieu 24, Jésus parle assez longuement et avec beaucoup de détails de la fin des temps. D'accord ? Il annonce le comment, ce qui va se passer, ceci, cela, un petit peu le quand, il dit alors viendra la fin, il y a un ou deux critères quand même, mais surtout, il annonce le quoi. Vous voyez, comment, quand, mais quoi. Et le quoi, c'est Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Voilà, ça c'est le quoi, c'est ce que Jésus annonce. Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et tout son enseignement sur la fin des temps, Jésus le conclut au verset 42, 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Verset 42, veillez donc, tenez-vous prêts. Et dès la fin, ce message, tenez-vous prêts. Alors, rassurez-vous, la prédication vise entre autres à répondre à la question « Comment être prêt ? Qu'est-ce que c'est être prêt ? Et qu'est-ce que c'est ne pas être prêt ?» ce message, cet enseignement « Tenez-vous prêt » Jésus le précise, il l'appuie par une série de 4 paraboles qui viennent à la suite, sans interruption. La première, c'est la fin du chapitre 24, où Jésus parle d'un serviteur qui est fidèle ou qui est maltraitant envers les serviteurs de Christ. Ensuite, il y a la parabole de la Vierge. Ensuite, donc, que nous voyons aujourd'hui. Ensuite, celle des talents, où de nouveau, Jésus dit, « Longtemps après, le maître revint et leur fit rendre compte. » Vous voyez ? Et puis, il y a celle du jugement de tous à la fin, qui est connu pour j'avais faim, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison et vous m'avez secouru, ou bien vous ne m'avez pas secouru. Et cette parabole-là commence par lorsque 25-31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône, etc. Dans chacune dans les 4, donc c'est une série de 4 qui ont le même message. Tenez-vous prêts. Et qui répondent en fait à qu'est-ce que c'est. Chacune, à sa manière, répond à qu'est-ce que c'est être prêt. On va l'expliciter. D'accord jusque-là? Voilà. Encore un mot sur les paraboles. Alors, je sais, ce n'est pas une étude biblique technique, mais bon, et je pense que ce n'est pas inutile de le dire. Les paraboles de Jésus, paraboles au sujet du royaume, pas toutes seulement au sujet du royaume, mais quand même, les paraboles de Jésus, elles disent en gros toutes, et c'est c'est le principe premier pour les comprendre, elles disent aux Israélites leur responsabilité envers Jésus venu sur terre. Par extension, elles disent à quiconque s'approchera d'une manière ou d'une autre de l'Évangile, de quelle manière il faudra qu'il reçoive Jésus et comment il devra se comporter vis-à-vis du Messie. D'accord ? Alors, la plus connue, le semeur. Jésus parle 2 fois de celui-ci, mais il dit, qui c'est le semeur ? C'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. Vous voyez ? La perle de grand prix, c'est le royaume venu en Jésus. Lui, c'est le roi, et la perle, c'est son royaume, sa personne même. C'est pas nous, la perle de grand prix. Et c'est sympa, c'est valorisant de dire ça, mais ce n'est pas dans le sens des paraboles de Jésus. Encore un mot, les paraboles ne sont pas des allégories. Alors, qu'est-ce que c'est une allégorie ? Il y a 2 L, hein, vous avez entendu. Dans une allégorie, l'auteur invente chaque détail pour que chaque détail symbolise quelque chose. Une parabole, c'est pas ça. Il y a des éléments allégoriques par moment, pas du tout ou un peu, mais les paraboles, c'est Jésus qui prend des scènes réel de la vie. Un semeur sorti pour semer, ben les gens ils savent de ce qu'il veut dire. Comprenez ? Des scènes réelles de la vie pour fixer une idée forte. C'est ça les paraboles. Alors, un semeur sorti pour semer, celui qui sème la parole, c'est le Fils de l'homme, ou qui sème les fils du royaume, c'est le Fils de l'homme. Eh bien, cette idée, elle a été tellement fixée dans l'âme de Pierre, que quand il prêche chez Corneille, il commence par dire « Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël » et ensuite il nomme Jésus. Vous voyez, la parabole du semeur, elle fixe l'idée forte que Dieu a envoyé la parole, son fils. Ensuite, Là, donc, si vous voulez, au début, dans l'histoire du semeur, il n'y a rien qui surprend les auditeurs. Mais celle, par exemple, où il y a les quatre terrains qui sont... Hein, là, ça les fait un peu tiquer. Il y a, si vous voulez, il y a un point qui sort du cadre de la scène usuelle. Vous voyez, l'image courante du semeur. C'est quoi ? Ce qui sort du cadre, c'est que Jésus parle autant des trois, entre guillemets, mauvais terrains que du bon. Et donc, si vous voulez, ce qui sort du cadre et qui peut être allégorique, ça sert à appuyer l'enjeu. D'accord ? Et pour la parabole du semeur, l'enjeu, c'est que celui qui a des oreilles entende. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Dieu il donne son Fils, il envoie sa parole. Voilà. Voilà. En aucun cas, cette parabole ne prophétise qu'un quart seulement des gens qui auront entendu l'Évangile se convertiront. Ou que jusqu'à un quart des gens se convertira. Vous comprenez ? Tout n'est pas allégorique. Voilà. De même, dans la parabole des vierges, vous allez dire, il a oublié laquelle il doit nous... aujourd'hui, si c'était une allégorie, donc on l'a déjà lu une fois, donc vous verrez vite. Si c'était une allégorie, vierge signifierait des gens purs et parfaits. 5 d'entre 10 annonceraient le rejet de la moitié arithmétique des Israélites. S'endormir reprocherait une tiédeur spirituelle. L'huile, ne me jetez pas des cailloux, je vous expliquerai après. L'huile symboliserait le Saint-Esprit. Achetez-en pour vous évoquerait la conversion. Tout cela n'est pas compatible avec la scène que Jésus décrit. Je sens que j'ai éveillé, il y a quelques oreilles qui vont se dresser. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de la relire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, littéralement prudentes. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, des flacons. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent littéralement, « Non, jamais !» Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Littéralement, les prêtres. Pas les prêtres, hein. Quoique. Les prêtres entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Deux minutes pour nous mettre dans la peau des premiers auditeurs. Parce que si on raconte un mariage aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, bon, on a conservé les demoiselles d'honneur. Donc, en fait, Pour les auditeurs, qu'est-ce que l'image, la comparaison, la scène décrite, qu'est-ce qu'elle a évoqué? Et ce qui dépasse la scène écrite, parce qu'il y a au moins un point qui sort de l'ordinaire, qu'est-ce que ça leur a, qu'est-ce que les auditeurs ont pu entendre? Donc, il était courant au temps de Jésus que pour les mariages, le fiancé et ses compagnons et les siens, enfin plus ou moins, il n'y avait pas de règles, allaient en cortège ou en groupe de la maison des parents du fiancé vers la maison de la fiancée. Là, la fiancée attendait l'époux avec les siens et avec ses compagnes, les plus proches ou que sais-je, ou des jeunes filles que la communauté a choisies, je ne sais pas. C'était pas codifié, c'était un usage global. Voilà. Et donc, voici l'époux, c'est pour ça qu'aînés aient pris leur lampe pour aller, c'est-à-dire prête à aller à sa rencontre quand il arrivera. On imagine facilement d'un autre village ou d'un autre quartier. Ou voilà. Et puis, à partir de une fois arrivé, tout le monde se regroupe, ça fait un cortège plus grand, et ce cortège retourne donc en nocturne, ça pouvait être en nocturne, sans doute souvent, puisque Jésus parle tout de suite de lampe. Retourne vers la maison du marié pour le festin de noces ou vers un lieu plus grand pour le festin des noces. Voilà. Et donc, dans l'histoire que Jésus raconte, il y a 10 jeunes filles qui sont chargées d'illuminer le cortège, le deuxième, si vous voulez, le cortège complet, d'éclairer, d'illuminer. D'accord ? Alors, une première chose, jusque-là, rien d'étonnant pour les auditeurs. Après, le fait que certaines aient oublié d'avoir une réserve d'huile, parce que les lampes, c'était des petits, comme un petit godet en terre cuite, peu importe, ça ne contenait pas beaucoup d'huile. Il fallait tout le temps de la réserve. L'oubli de faire réserve a dû étonner les auditeurs quand même. Ils ont dû se dire, mais ce n'est pas possible. Mais où est-ce qu'elles avaient la tête, celle-là? Elles devaient penser qu'à leur chignon et on n'en faisait pas à l'époque. Hein. C'est un anachronisme. Peut-être. Il m'est arrivé d'avoir l'impression que lors de vrais mariages, que des demoiselles d'honneur avaient peur qu'on ne trouve la mariée plus belle qu'elle. Papy se lâche. Donc ça a pu les étonner. Et les révolter un peu de dire mais et comment elles honorent le marié? Comment elles honorent le mariage? Voyez comment ça la réponse que on ne peut pas partager l'huile, ça étonne personne. Parce que si vous voulez, s'il s'agit d'un déplacement de 10 jeunes filles, avec 5 lampes, il y en a largement assez. Mais si on partage et qu'il y a 10 lampes qui sont qu'à demi-réserve et qu'à la moitié du trajet, ça y est, il fait tout noir, là, ça ne va plus. Vous comprenez ? Voilà. Donc il vaut mieux 5 lampes qui brûlent jusqu'au bout et qui honorent, peut-être moins que prévu, mais qui honorent la noce. Voilà, donc jusque-là tout va bien pour les auditeurs. Tout est courant. Peut-être même, le verset 12, je ne vous connais pas. Peut-être que ça ne les étonne pas ça, en disant, attends, effectivement, s'il y a 6 jeunes filles proches de l'épouse qui ont même pas pensé qui se sont même pas dit pourquoi elles sont là. Donc effectivement, c'est logique qu'après, on ne les ait pas laissés rentrer. Il est possible que même la fin comme ça n'étonne pas les auditeurs. Mais il y a une chose qui sort du cadre de l'image d'un mariage habituel. Il y a une chose qui dépasse ce qu'était un mariage couramment, c'est l'époux n'arrive qu'au milieu de la nuit. Voilà. Sauf si c'est cassé un coude plus le bras, plus une jambe. Voyez. Et là, alors est-ce que déjà pour certains auditeurs, ça faisait écho à Ésaïe 54, verset 5, « Moi, l'Éternel, ton Créateur, je suis ton époux. » Est-ce que, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ils ont dû se dire, mais c'était pas n'importe qui se marier alors. Il arrive qu'au milieu de la nuit, tout le monde attend, personne s'en va. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça fait écho aux paroles de Jean-Baptiste qui voyait en Jésus l'époux et en lui-même Jean-Baptiste l'ami de l'époux? Je ne sais pas. En tout cas, ça sort clairement de la scène d'un mariage courant. Alors maintenant, oui, un petit mot quand même. Ésaïe 54, ça suit Ésaïe 53. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça va. C'est-à-dire que tous les bénéfices glorieux, triomphes, stériles, etc., que vous lisez dans Ésaïe 54,
oui. Je bois un peu, mais sinon c'est moi qui me perds.
Tous les bénéfices d'Ésaïe 54 sont bien évidemment résultats de ce qui se passe dans Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, c'est l'expiation qui fait que. Et donc, l'Éternel se dit l'époux de ceux qui entreront sous le bénéfice de la croix de Jésus. Voilà. Alors évidemment, je ne veux en aucun cas affirmer que tous les auditeurs avaient déjà tout compris, tout ça, hein, mais quand même, tous les sabbats, on lisait les Écritures dans la synagogue et Jésus qui parle d'un époux, et puis au bout d'un moment, ils se disent « Ah, ce n'est pas n'importe quel époux !» Bon, on ne sait pas. Alors maintenant, le message de la parabole, vous allez dire « T'as mis le temps pour y arriver ?» Il est simple, je l'ai dit, hein, on n'a pas fait de suspense, tenez-vous prêts. Alors, et c'est la nécessité d'être prêt est doublement argumentée dès les deux premiers versets. Jésus, il commence par une description tellement merveilleuse. 10 jeunes filles qui prennent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Ça ouvre les oreilles, ça ouvre les cœurs. Ah, on veut en être. Et puis, ça c'est verset 1. Verset 2, 5 d'entre elles étaient folles. Alors là, c'est un peu la douche. Mais c'est toujours pour... Le verset 1, c'est pour dire, tenez-vous prêts, parce que l'enjeu est tellement glorieux, il en vaut la peine. Et le verset 2 dit, tenez-vous prêts, parce qu'il y a quand même des soucis. D'accord? Nous l'avons vu déjà. Donc là, je peux, en fait, en nous mettant dans la peau des premiers auditeurs, ça nous permet d'aller plus vite ensuite. Hein. On aura vu que la moitié des jeunes filles qui étaient... des personnes, si vous voulez, qui étaient censées attendre l'époux, parce que même les folles étaient censées. Elles étaient censées attendre l'époux. Donc ça, c'est... Non, désolé, je me... Accessoirement, quand Jésus dit qu'elles étaient folles, ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas de cerveau. Hein. Le mot globalement dans toute la Bible évoque plutôt être insensé, c'est ne pas craindre Dieu, ne pas le croire, ne pas dans l'absolu, c'est l'insensé dit il n'y a pas de Dieu. Vous voyez, donc était folle. Pour l'auditeur israélite, ça dit clairement, ça dit il y a quelque chose, il y a un problème par rapport à la crainte due à Dieu. Vous voyez? Donc la moitié des personnes, donc pas arithmétiquement, hein, voilà, mais ça dit quand même que le problème est ample. Et on verra vers la fin qu'il l'est. La moitié des personnes censées attendre l'époux n'y accordaient pas une vraie importance. En fait, c'est ça, le problème il est là. Il n'y accordait pas une vraie importance. En vérité, elle n'était pas là pour lui. Ne pas faire réserve d'huile signifie révéler qu'elle dédaigne l'époux. Elle dédaigne l'époux ou la noce ou l'époux et l'épouse et tout le monde. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Il semble qu'elle soit là pour autre chose. L'autre moitié, que Jésus qualifie de prudente, bien pour parler un français courant, elles sont à ce qu'elles font. Vous comprenez? Elles n'ont pas le cœur ailleurs. J'ai été choisie pour illuminer le cortège nuptial. Alors, j'y suis et je me consacre à ça. Donc, pour les premiers auditeurs, ça signifie, vu tout ce que Jésus a dit avant et depuis le début de son ministère et jusqu'à la fin, ça signifie, mais quel honneur accordez-vous ou refusez-vous à mon envoyé? Et pour nous aujourd'hui, et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ça signifie pour quiconque, quel honneur accordes-tu? Enfin, le mot n'est pas approprié, hein, mais parce que c'est nous, comme tu l'as bien dit, nous on ne mérite pas, hein, c'est pas nous, et lui, c'est pas nous qui lui accordons notre louange, mais c'est une façon de parler. Quel honneur avez-vous ou n'avez-vous pas envers lui? Donc, pour celles-là, pour les prudentes, faire réserve d'huile, c'est prendre au sérieux l'époux et leur rôle envers l'époux. C'est ça, être prêt. Être prêt, c'est avoir le cœur là. Ne pas être prêt, c'est avoir le cœur ailleurs. Être prêt, c'est être saisi par l'importance de l'époux. Ne pas être prêt, c'est, tout en sachant qu'il y a un époux, qu'il y a des noces, que si, que mi, et même je suis parmi les demoiselles d'honneur, poursuivre autre chose. Et donc Jésus... j'allais dire, il cristallise l'enjeu par le cri dans le récit. Voici l'époux, sortez. Et donc, j'ai plaisir à répéter la façon dont c'est formulé littéralement dans le texte littéral. Les prêtres entrèrent. Et c'est super beau que c'est Jésus qui les qualifie de prêtres. Alors, donc ça c'était le message de la parabole est simple. Tenez-vous, deux points, tenez-vous prêts. Le message de la parabole est pratique. Deux points, être prêt, c'est faire ce que Dieu dit. Alors, Jésus commence de façon peut-être étonnante, mais extrêmement encourageante. Il qualifie de prêt, enfin il commence, pardon, on a déjà avancé, il poursuit, il qualifie de prêtre. Les deuxièmes cinq jeunes filles qui se sont endormies. Entendons bien. Entendons bien. Toutes s'assoupir, toutes s'endormir. Et là, il n'y a pas de reproche pour une raison très simple, c'est que dans l'histoire, il faut pas faire dire à l'histoire ce qu'elle ne dit pas. Dans l'histoire, eh bien forcément, si tu es au milieu de la nuit déjà, et il est toujours pas là, ben oui, tu te fatigues, voilà. Alors, du coup, être prêt ne signifie pas être tout le temps aux aguets. Vous voyez, tout, avec la mitraillette au poing. Oui, non, ça c'est pas dans l'histoire. Vous voyez, c'est pas être tout le temps aux aguets. Être prêt, c'est pas ne jamais fléchir. Vous comprenez, avoir zéro faiblesse, c'est pas ça être prêt. Être prêt, c'est être en train de faire ce que Dieu dit de faire. C'est extrêmement simple. Alors qu'est-ce qu'on leur a dit à ces jeunes filles? Vous devez illuminer le cortège. Eh bien, celles qui ont fait des réserves, elles sont prêtes, même quand elles dorment. Amen. Il y a d'autres textes dans la Bible où ne pas veiller signifie ne pas rester dans la foi. Alors là, oui, là, c'est pas bon. Mais ne pas veiller, ça signifie pas avoir des faiblesses. Donc elles ont fait pour l'époux ce qu'il fallait, donc elles sont prêtes. Et alors c'est le Seigneur qui dit, et comme toujours, c'est notre Seigneur qui dit de la plus belle manière et de la manière la plus juste ce que signifient les choses ici, ce que signifie être prêt. C'est, en conclusion de la parabole qui y a à la fin de Matthieu 24, la parabole du serviteur qui doit préparer la nourriture pour les gens de la maison de son maître, et qui sera soit fidèle, soit maltraitant. Jésus dit, s'il se met à battre les serviteurs, à s'enivrer avec les ivres, Jésus dit, en parlant de celui qui est fidèle, il dit, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » C'est ça, être prêt. Dans toute la Bible, il n'y a pas de formulation plus directe et plus profonde sur ce que signifie être prêt, et elle sort sans surprise de la bouche du Seigneur. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire, faisant quoi? Ce que le maître avait dit, prépare la nourriture régulièrement, au temps convenable pour tous mes gens. Spurgeon a eu une formule tellement heureuse. Alors, il est en dessous les paroles de notre Seigneur, hein, mais il a dit, Spurgeon, donc prédicateur remarquable du 19e siècle en Angleterre, bien attendre la deuxième venue de Christ, c'est bien annoncer la première, sa première venue. Si vous voulez, il a paraphrasé, être prêt, c'est faire ce qu'il a dit de faire. Alors, il n'a pas seulement dit d'annoncer l'incarnation, crucifixion, résurrection, il a aussi dit, dans la série des quatre paraboles, servir les frères. Dans celle-ci, celle des dix vierges, honorer, glorifier, magnifier très haut l'époux, travailler pour son règne, celle des talents, et puis celle du jugement de tous, faire à ses petits frères, aux petits frères de Jésus, qui souffrent, tout le bien possible. Donc, si vous voulez, quand je prie pour l'Église persécutée, que j'envoie de l'argent à ceux qui vont sur place aider, eh bien, je suis prêt. Quand je sers mes frères et sœurs afin qu'ils soient correctement nourris selon ce que Dieu veut, je suis prêt. Quand j'honore, je magnifie le Seigneur, je suis prêt. Et quand je travaille pour l'Évangile, pour son règne, d'une manière ou d'une autre, je suis prêt. Voyez ? Amen. C'est une grande force dans le monde évangélique de voir un lien entre se convertir et être prêt. Amen. C'est incontestable. C'est une grande faiblesse dans le monde évangélique de sous-estimer le lien entre faire et être prêt. Évidemment, ce n'est pas faire qui nous sauve. Alors, ah, celle-là, je vous la dois. Est-ce que l'huile symbolise quelque chose ? Alors déjà, on ne peut pas faire une lecture individualiste de la parabole. Elle ne parle pas de moi tout seul. Ok. L'huile n'était pas au bénéfice des 10 jeunes filles. Vous voyez ? Ce n'est pas, ah, vous devez aller à l'autre village là-bas, vous êtes invité à un mariage, vous n'avez pas de lampe, pas d'huile, tenez, on vous donne des lampes et des huiles, de l'huile. Ce n'est pas ça. C'est pour servir la noce. Alors, je vais faire la version simple, courte. Alors, je vous rassure, probablement mon prochain article sera là-dessus, sur ce texte-là, dans mon blog. Si par huile, Jésus avait voulu symboliser le Saint-Esprit, alors ça signifierait que bon, les vierges folles qui disent « Ah, on n'a pas assez d'huile, donnez-nous-en », déjà ça signifierait qu'on peut se donner l'Esprit l'un à l'autre. Mais elles disent « Ah non, il n'y en aura pas assez ». Alors ça signifierait que si je t'en donne, il va m'en manquer à moi, du Saint-Esprit. Ensuite, quand elles disent « Allez en acheter », alors ça, vous allez me dire « Ah, ça fait référence à Isaïe 55, verset 1, « Venez acheter sans payer ». Mince, non. Parce que « Allez en acheter », si ça symbolise « Aller vers ceux qui en vendent », c'est-à-dire qui donne si c'est le Saint-Esprit, qui donne le Saint-Esprit ? Dieu. Donc, allez vers Dieu, repentez-vous. Demandez-lui sa grâce et il vous donnera son esprit. Amen. Magnifique. Et puis revenez et le Fils de Dieu vous fermera la porte. Voyez que si on veut prendre les paraboles comme des allégories où chaque détail symbolise quelque chose, on leur fait dire des choses qui ne tiennent pas debout. Et là, c'est une énormité. Dire, allez. Vous comprenez ? Donc, vous allez dire, bon mince alors, en fait dans toute la Bible, il est relativement rare que l'huile symbolise quelque chose. Elle est premièrement une substance matérielle pour la nourriture, pour l'éclairage, pour les soins cosmétiques, pour soigner les blessures. Et bien sûr, elle symbolise plusieurs fois la bénédiction de Dieu, la joie, et l'onction. L'onction qui signifie que Dieu nous attache à lui, nous consacre à lui. Alors, dans la logique de la scène, l'huile, c'était un élément matériel qui leur permettait de remplir leur fonction. Donc oui, elle symbolise quelque chose. Le fait de faire réserve d'huile symbolise quelque chose, cependant, elle symbolise toute action requise par le fait d'attendre Jésus. Donc, l'huile représente la même chose que travailler avec les talents, que préparer la nourriture pour les autres serviteurs, que secourir les disciples de Christ qui souffrent. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, et il faut y arriver, le message de la parabole est solennel, il est exigeant. Tous n'entrent pas, tous n'entreront pas. En suggérant que l'époux, c'est lui, bien sûr, Jésus rappelle la fidélité de Dieu à son alliance. Il, à mots couverts, il parle de son amour pour son peuple. En tout cas, la parabole entière, sans parole pour ainsi dire, crie, c'est-à-dire elle crie, tout pour l'époux, tout pour l'époux. Et du coup, l'anomalie apparaît flagrante dans le cœur de certains. Il n'y a rien ou quasiment rien pour l'époux. Voyez, donc ce n'est pas un simple oubli, l'histoire de l'huile. Ce n'est pas un simple oubli. C'est que le cœur n'y est pas. Alors, j'ai promis que je ne me déroberai pas. Les vierges folles, elles représentent qui? Alors, en vérité, depuis aussi loin que remonte ma mémoire, depuis ma conversion, c'est-à-dire ça fait 50 ans. On est en automne, donc voilà, ça fait 50 ans. J'ai entendu deux interprétations. Pour les uns, elles représentent des croyants, de vrais chrétiens, mais endormis, etc. Et pour d'autres, elles représentent de vrais non-chrétiens. En gros. Donc, on surréagit au terme vierge, on dit mais elles attendent l'époux, donc elles sont chrétiennes, elles manquent d'huile, c'est hyper grave. Donc elles représentent de vrais chrétiens, fautifs, endormis, peu remplis de l'esprit. Et hélas, on en conclut, Jésus leur fermera la porte. Donc, en fait, le débat n'est pas étranger au débat sur perte du salut ou pas. Et en fait, l'interprétation ne tient pas, tout simplement parce que Jésus fait dire au personnage de l'époux, en vérité, je ne vous connais pas. Et vous le savez, il l'a dit en clair, c'est pas qu'en parabole, hein. Il l'a dit en clair dans Matthieu 7, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Et il continue, mais il dit quoi d'ailleurs? Mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez le rapport entre entrer et faire. Mais il finit en disant, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Donc ce ne sont pas des gens nés de nouveau. Ok ? À l'inverse, vu que la porte leur fut fermée, et que dans ma logique, il n'y a que des sauvés et des pas sauvés, ce qui est vrai, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous prêcher maintenant le purgatoire ou que sais-je. Mais dans une logique un peu trop radicalement dualiste, je me dis, vu que la porte leur fut fermée, ce sont des personnes complètement incroyantes. Et ça ne tient pas non plus. Parce que ce sont des compagnes de l'épouse. Ce sont des compagnes de l'épouse. Donc pour le premier auditeur, et donc la deuxième interprétation ne tient pas non plus, alors il reste quoi ? Là, ça va être hyper facile, il reste moitié-moitié. Pour les premiers auditeurs, elles représentent qui ces vierges folles? Et Jésus, c'est une sonnette d'alarme qui tire quand il dit « Cinq étaient folles !» Enfin, l'intonation, c'est moi qui la mets. Hein. ça représente des Israélites qui ne craignent l'éternel Dieu qu'en apparence et qui dédaignent son Messie. Par extension, ça représente tout humain vaguement croyant qui évolue dans le christianisme mais qui n'est pas là pour Christ. Il est là, mais il n'est pas là pour Christ. Et donc, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui, je suis fatigué, je suis dégoûté, donc je suis présent à la réunion et je ne pense même pas à Jésus. Ce n'est pas ça, hein ? Je parle, son cœur n'est pas à Christ. On va se dire, mais si vous croyez, est-il possible que Jésus ait dit une parabole, entre autres ? Bon, il n'a pas dit que pour ça la parabole, il l'a dit pour dire, tenez-vous prêts. Et pour expliquer qu'est-ce que c'est être prêt, faire ce qui a été dit de faire. Mais est-ce que quand même aider une parabole juste pour évoquer cette catégorie étrange, ambiguë ? Mais il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Mon pauvre. Et ici, peut-être que le 5-5 a du sens. Alors déjà, au sujet d'Israël, Dieu lui dit, même quand vous seriez nombreux comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Donc, je veux dire, depuis des siècles, Dieu dit clairement que c'est la vérité. Dans l'Ancien Testament, et pas seulement dans le Nouveau, les prophètes parlent de circoncision du cœur, et pas seulement de l'apparence. Voilà, des gens qui évoluent dans le christianisme pour d'autres motifs que Christ. Alors, vous allez dire, ah ça y est, je comprends. Tu veux faire allusion aux églises de multitude. Les églises très anciennes, des religions très traditionnelles, on est sociologiquement catholiques, protestants, etc. Alors là, oui, là, il y a beaucoup de monde qui évolue dans le christianisme pour d'autres raisons que pour Christ. Beaucoup. Beaucoup. Et dans le monde évangélique, sommes-nous exempts ? Est-ce par hasard que dans la majorité des églises évangéliques, on devient membre par une conversion personnelle et non pas parce que papa est... Vous voyez ? Est-ce que tous nos enfants ont leur cœur à Christ ? Etc. Et en général, ils évoluent quand même dans le christianisme. Donc c'est solennel, vous voyez ? C'est solennel. Il y a un fait dont on parle très peu, c'est que dans les grands réveils, donc, il y a beaucoup de conversions, et il y a une proportion non négligeable de fausses conversions. Des gens qui viennent pour l'atmosphère, des gens qui carrément font une fausse profession de foi pour différentes raisons. Quand le réveil a une intensité incroyable, même économiquement c'est intéressant d'être dans le courant, tu auras plus de clients à ta boutique. Mais c'est pas une blague. Donc en tout cas, ceux qui collectent toutes les données sur les réveils relèvent ça, il y a des fausses conversions. Vous allez dire, bon, tu nous parles des églises de multitude, tu nous parles des réveils, parle-nous plutôt de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. D'accord. Un roi fit des noces pour son fils. Un peu plus tard, il insiste qu'on invite tout le monde. Il rentre, il vit un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces. Et il dit, liez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il était dans la noce, il était au milieu, il n'avait pas revêtu. Autrement, c'était les noces pour le fils du roi. Il fallait mettre le nœud pape. Bravo, nos jeunes frères et sœurs. Et donc on ne peut pas arriver, et lui il arrive en disant, ah non, moi je n'honore pas le fils du roi, moi je reste qui je suis. Voilà, il faut rester ce qu'on est.
«
Jésus dit la même chose à la fin de la parabole des talents. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alors qu'au début, on se dit, c'est un serviteur comme un autre. Et puis, quant au serviteur maltraitant, qui bat les autres et tout, Jésus dit, quand son maître viendra, il le mettra en pièces. Paul écrit, Paul avertit les Éphésiens, « Des loups redoutables s'introduiront dans le troupeau, acte 20, et des hommes aux paroles perverses se lèveront du milieu de vous. » Paul parle aux Galates de pseudo-frères, traduit faux frères, mais en français, voilà, pseudo-frères qui se prétendent. Et l'apôtre Jean, parlant des antichrists, des au pluriel, et avant d'évoquer le dernier antichrist, il dit, ils sont sortis de chez nous. On va se dire, mince, alors jusqu'ici c'était bien ta prédication. C'était bien, on était content que tu sois venu. Mais vous savez bien, même jeune, ou plutôt déjà jeune, vous le savez, on n'a pas le droit de dire au sujet de la parole de Dieu autre chose que ce qu'elle dit. On n'a pas le droit de taire une partie non négligeable en volume des paroles de Jésus ou des apôtres et de se construire une espérance en excluant cette partie-là. Voyez ? Et donc on n'a pas le droit de laisser croire à nos proches qui apprécient vaguement le christianisme, que l'évangile et les valeurs de la République, c'est la même chose. On n'a pas le droit de laisser croire aux gens que quand ils emploient le mot amour avec A majuscule, ils viennent de nommer Dieu. On n'a pas le droit, parce que l'histoire du mariage et des 10 demoiselles d'honneur, elle finit en céleste apothéose et en drame absolu. Et l'histoire de l'humanité finira comme ça, en céleste apothéose et en drame absolu, pour les uns ou pour les autres. Donc je rappelle quand même... Un disciple consciencieux mais faible ne doit pas craindre qu'au dernier jour, Jésus ne lui dise « Je ne t'ai jamais connu ». Mais un croyant d'apparence, a fortiori un croyant perfide, doit craindre. Et Jésus dit « Je vous montrerai moi qui vous devez craindre ». Luc 12. Celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne de feu. Alors, c'est aussi ma responsabilité, ce n'est pas ma responsabilité première, centrale, mais c'est aussi ma responsabilité dans les temps actuels d'avertir que la séduction antichrist, par essence, sera le mix de toutes les spiritualités. L'antéchrist, le dernier, sera un personnage spirituel. Il est question de temple, de se faire adorer, de se prosterner, etc. Et pas seulement politique et économique. Alors, économique, c'est clair avec la Grande Babylone. Politique, ça semble clair, un pouvoir planétaire, mais c'est spirituel. Voilà. Si vous voulez, la grande séduction de notre génération, et donc donc au bout d'un moment, les plus âgés, on va décéder, on va mourir. Et si le Seigneur n'est pas revenu encore, vous allez encore petit à petit... avancer, prendre quelques années, quelques dizaines d'années, et vous le verrez mieux que nous. Vous le verrez mieux que nous ne le voyons, que la grande séduction, ça sera « Toute foi est bonne, toute spiritualité est bonne, sauf nul ne vient au Père que par moi. » Ah, ça, c'est intolérant, c'est étroit. Voyez ? Et là, et donc toutes les haines se concentreront contre cette foi-là, en Jésus qui a dit « Nul ne vient au Père que par moi », dont Pierre dit « Il n'y a pas d'autre nom qui soit donné sous le ciel », c'est-à-dire planétairement, pour être sauvé. Voilà. Donc si vous voulez, quand j'entends « Fratelli tutti », je pleure. Parce que je sais quel esprit anime ça. Après qu'il y ait une amitié et une bienveillance envers tout humain, bien, c'est même la moindre des choses. Mais dans la Bible et la Bible entière, le Nouveau Testament, le mot frère est extrêmement fort. Le Nouveau Testament ne l'attribue jamais qu'aux disciples de Christ. Il l'attribue à personne sauf aux disciples de Christ. Voilà. Oula. J'ai un peu débordé, mais j'ai fini. Conclusion de notre Seigneur. Quand il parle de la fin dans Matthieu 24, tenez-vous prêts. Autrement dit, magnifiez l'époux et faites ce qu'il dit de faire. Et puis sa conclusion ici, veillez. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire veillez, bien évidemment par amour envers l'époux, le Seigneur, mais aussi parce que vous êtes limité. Ne pas savoir le jour et l'heure, ça fait partie de nos limites. Amen.